Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, mesdames, messieurs, merci d'être là cette année encore. C'était, je pense, à la fin de ma première année d'enseignement ici, ça devait être en 94-95. J'ai promis à mon auditoire, je ne sais encore pas s'il y a des survivants parmi vous de l'époque, qu'un jour, je ferai un cours sur les Fravashi. Les Fravashi, j'emploie tout de suite le mot, c'est-à-dire les âmes préexistantes, ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait la promesse, si j'ai insisté sur le fait que ça se ferait un jour, plutôt que de ne rien annoncer du tout et de le faire, c'est parce que ça pose un gros problème. Et ça me pose, à moi personnellement en particulier, ça me posait un très gros problème. Je ne comprenais pas le système de fonctionnement général des âmes. Nous allons voir à quoi cela correspond. Et j'avais consacré mon cours cette année-là, le cours qui a précédé la promesse, n'est-ce pas, à étudier le fonctionnement de deux âmes. Le résultat m'avait paru satisfaisant, mais je ne voyais pas comment introduire dans ce système la troisième âme, celle dont nous allons parler cette année. Alors, je voudrais aujourd'hui vous faire une rapide introduction, vous situer le problème, non pas tellement la manière dont ce problème se situe pour moi que la manière générale dont il s'est posé à l'érudition philologique, afin d'éclairer cette importante notion de la religion mazdéenne ou zoroastrienne, si vous voulez. C'est pas le nom de ces divinités, ce sont des divinités, constitue un groupe de divinités dans le dialecte de l'Avesta, qui est en gros le livre rituel de la religion mazdéenne. Nous transcrivons le mot comme cela, avec cette évolution que certains d'entre vous connaissent bien s'ils viennent au séminaire depuis quelques années. Et la forme originale doit être Fravarti. Le mot existe d'ailleurs sous cette forme dans le dialecte perse. À la même époque. Bien. Alors, ces divinités qui portent ce nom reçoivent, comme toutes les divinités mazdéennes qui patronnent un jour, un mois de l'année ou un jour du mois, un texte sacrificiel qui leur est propre. C'est un rituel qui leur est propre, un rituel qui a lieu le jour qui leur est dédié. Ces hymnes sacrificiels personnels aux divinités autres que le grand dieu Ahura Mazda s'appellent des Yasht. Les Yasht constituent un tiers de l'Avesta, du recueil rituel que nous possédons encore. Et c'est le 13e, c'est le Yasht 13. C'est un texte très long à la mesure de l'Avesta. L'Avesta, il comporte 158 strophes. Je serais tenté de dire que c'est le plus long texte de l'Avesta, mais je ne le dirai pas, parce que c'est une définition qui n'aurait pas de sens. Les textes avestiques comportant des strophes de longueur extrêmement irrégulière, nous ne pouvons pas faire une réflexion de ce type. Donc, le Yasht 13. Le Yasht 13 est composé de deux parties. Il y a véritablement un texte rituel proprement dit qui nous décrit les divinités, nous parle de leurs activités, nous disent à quoi elles ressemblent, etc. Ça, c'est le Yasht traditionnel. Et une deuxième partie qui est d'un type très particulier, c'est quelque chose qui est propre au Yasht 13, c'est une énumération litanique de noms propres. On invoque la Fravashi de tel personnage particulier, personnage légendaire. Il ne faut pas chercher dans ces listes un quelconque tissu historique. Il y a donc aussi cette deuxième partie du Yasht qui est un document extrêmement important, non plus ici dans le domaine véritablement religieux, si vous voulez, ou doctrinal, mais c'est un document de première force pour l'onomastique iranienne. Nous avons un catalogue de noms propres. Ceux qui s'intéressent aux problèmes onomastiques ont d'ailleurs beaucoup travaillé sur cette partie. Petite particularité que je tiens à signaler d'emblée, c'est que la jonction entre les deux parties n'est pas claire. On ne peut pas bien estimer où l'on glisse de la partie proprement rituelle à la partie litanique des noms propres entre la strophe 80 et la strophe 96. Donc il y a un petit problème de ce point de vue-là, mais il ne nous retiendra pas. Y a-t-il d'autres sources que ce texte rituel ? Oui, ailleurs dans l'Avesta. Ailleurs dans l'Avesta, c'est pour l'époque ancienne que je parle, n'est-ce pas ? Dans le livre moyen perse, bien sûr, il y a d'autres sources, mais pour la période ancienne. Dans d'autres parties de l'Avesta, il y a, dans le grand rituel solennel, pour le grand dieu, celui-là, Uramazda, et qui s'appelle le Yasna, nous trouvons des passages extrêmement importants et qui nous entraînent à une certaine réflexion sur le Yashta 13. Il donne une image un peu différente des Fravashi. Et puis, une autre donnée, n'est-ce pas ? Un roi mède, donc antérieur au pouvoir achéménide. Un usurpateur mède qui tente de prendre le pouvoir contre Darius, selon l'inscription de Bihistun. Et puis une série de rois partes, n'est-ce pas ? Porte le nom de Fravarti. C'est ce que les Grecs ont transcrit par Fraortès, le nom de Fravarti. Ce n'est pas une habitude onomastique iranienne ou mazdéenne non plus, n'est-ce pas, qu'un homme porte le nom de la divinité, simplement, comme cela. Nous avons affaire à autre chose, mais à quelque chose qui est un peu frustrant pour nous. C'est ce que l'on appelle un nom court, c'est-à-dire un composé démembré. Le premier terme était le nom des Fravashi, Fravarti, et puis il y avait un second terme. Mais dans l'usage courant, dans l'usage usuel, l'usage laïque, ce deuxième composé a été supprimé. Donc, il s'agit d'une personne qui subit une action X de la part des Fravashi, des Fravarti. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot. Mais l'action, nous ne l'avons pas. C'est cela qui est frustrant. Donc, le témoignage est tronqué. Bien, alors, où en sommes-nous ? C'est toujours aujourd'hui, dans les études sur l'Avesta et la religion mazdéenne, la question qu'il convient de se poser d'emblée pour aplanir le terrain devant notre recherche. Où en est l'état de notre documentation ? Comment connaissons-nous le Yashta 13 et ces quelques passages avestiques que nous pouvons considérer comme ses compléments ? Bien, vous savez, mes auditeurs savent depuis quelque temps que depuis environ 90, mais avec des essais précédents, nous assistons à un mouvement général de réédition du texte des Yashta. Plusieurs spécialistes, plusieurs philologues, et très souvent c'est leur premier travail, c'est leur thèse de doctorat, n'est-ce pas, ont entrepris de rééditer, donc de revoir en profondeur le texte, mais aussi le sens de la plupart de ces hymnes individuels aux grandes divinités, qui passent à tort ou à raison, c'est un raisonnement que je n'aime pas faire, mais ces textes, l'engouement pour ces textes, c'est qu'ils sont considérés comme peut-être les seules parties de l'Avesta qui soient dignes d'un certain intérêt littéraire. Bah, je ne crois pas que nous puissions, moi personnellement, nous comporter envers un texte de cet âge et de cette nature en critique littéraire. Mais bien, c'est un sentiment assez général et l'entreprise de réédition est systématique. Je dirais qu'à présent, à peu près tous les Yashta ont été réédités, ou du moins sont en voie de l'être de manière officielle. Or, il y a deux exceptions notoires, n'est-ce pas, où le travail de réédition a été antérieur à l'époque qui commence en 90. C'est le Yashta 10 à Mitra, réédité. Depuis la grande édition de Geltner, qui date de la fin du XIXe siècle, hein, le Yashta 10 à Mitra a été réédité en 1959 par Gershevitch, et le Yashta 13 au Fravashi l'a été un peu plus tard. C'est l'œuvre d'un savant américain qui s'appelle William Malandra. C'est sa thèse de doctorat. William Malandra est né en 1942. Il a soutenu sa thèse, son édition du Yashta 13 en 71, et le texte est resté, cette thèse n'a pas été publiée, mais il est accessible. Il est accessible, le voici, hein, car il a été reproduit en 1986, 15 ans plus tard, donc dans une série qui réunissait les thèses de doctorat américaines de microfilms, hein, publiées à l'université de Ann Arbor dans le Michigan. Alors, comment faut-il juger ce travail ? Bien, c'est un bon travail, mais extrêmement prudent. Il faut savoir, bien situer cela et choses comme cela, n'est-ce pas, que William Malandra est un savant extrêmement probe, mais qui, toute sa vie, a été paralysé par ses scrupules. Et ça se sent très fort. Cette tendance générale de sa personnalité est extrêmement sensible dans son travail. Entre autres, l'un des problèmes qui l'ont tourmenté, qui l'ont obsédé, il est toujours en vie et actif jusqu'à nos jours, c'est le problème métrique. Souvenez-vous, nous avons, il y a 2 ans, ensemble, envisagé le problème métrique. Il se pose pour les Yachts. C'est surtout pour les Yachts, n'est-ce pas? Le parti de l'Avestarissant pose un problème métrique que nous pourrions formuler comme cela. Le texte contient un nombre extrêmement élevé d'octosyllabes. C'est l'observation de base. Mais ces octosyllabes ne sont pas permanents. Très souvent, le fond isométrique est trahi. Et l'on trouve des passages qui comptent un nombre différent de syllabes, ou au contraire, qui ont carrément l'apparence de la prose. Que faire, n'est-ce pas, à partir de cette observation? Peu de temps avant le travail de Malandra, une autre hypothèse s'était fait jour l'isométrie métrique des textes des Yachts, de l'Avestarissant, mais tenter de la remplacer par une théorie de l'accent. Ce ne sont pas le nombre des syllabes qui auraient fait foi pour constituer un verbe, mais le nombre des accents. Il a été aussi très facile de réfuter cette théorie, nous l'avons vu. Nous devons aujourd'hui admettre qu'il y a un fond isométrique d'octosyllabes dans tous les Yachts. Mais ce n'est pas régulier. Les raisons pour lesquelles cette régularité fait défaut, nous avons tenté de définir quelques aspects de cette irrégularité il y a 2 ans, je ne vais plus m'attarder sur cette question. Or, le problème métrique se posait à Malandra, il l'aborde, il décide que ce n'est pas un problème qui pouvait être résolu à cette époque. Aussi a-t-il pris la décision de donner le texte sous la forme de la prose, ce qui n'est pas une mauvaise décision. Alors, le livre de Malandra, bien sûr, est vieilli. Pourquoi est-il vieilli? Pourquoi ai-je fait d'ailleurs de la date de 90 un seuil, en quelque sorte? Eh bien, c'est que Malandra a publié sa thèse, a fait son travail antérieurement, avant les grandes investigations philologiques de l'école d'Erlangen, de Karl Hoffmann en particulier. Toute l'histoire du corpus avestique depuis supposée composition jusqu'au manuscrit que nous possédons, que nous en avons, a été retracée par Karl Hoffmann à partir, je pense, que les premiers articles à ce sujet doivent être parus en 69, les articles de 1969. Vous voyez, nous sommes en 71 avec Malandra, il connaît un de ses articles, le premier, mais les autres vont suivre. Et la mise au point générale de Hoffmann paraîtra avec la collaboration de Johann Anarten en 1989 sous le titre Der Sassanidische Archetypus. Donc Malandra n'a pas travaillé dans cette perspective. La perspective de Malandra, qui est légitime à l'époque où il travaille, est la suivante. D'abord, la transcription. Malandra transcrit le texte avestique à la Bartholomée, selon les critères du dictionnaire de 1904, non pas selon les critères de Hoffmann. Ce n'est pas gênant, la différence est très mince. Deuxième perspective, un peu plus encombrante, quoiqu'elle n'ait jamais empêché les philologues de travailler, mais on risque de travailler selon des biais dans le texte. Cette deuxième perspective, c'est celle de la date et du lieu. Le lieu, c'est pas trop. On sait que l'avestique n'est pas une langue situable, elle n'a pas de rejeton actuel. Et de ce point de vue-là, Malandra travaille selon la perspective de Christensen, selon les analyses que Christensen avait faites des Yachts en 1930, dans son livre intitulé Les Kayanides. Cela signifie qu'il pense que la patrie de l'avestique est la Khorasmie, plus personne ne le pense aujourd'hui, mais c'est sans effet pratique sur son travail. D'autre part, il accepte aussi la chronologie du texte de Christensen, c'est-à-dire la datation moyenne. Il accepte la datation moyenne et lui donne même comme apparence la forme de ce que j'ai appelé la date pseudo-historique, c'est-à-dire celle d'une tradition moyen-perse particulière qui situait le fondateur présumé du zoroastrisme, Zarathoustra, 258 ans avant Alexandre. Et Madame Dra pense plus précisément que c'est 258 ans avant Alexandre, c'est la date de la mort du fondateur, la mort de Zarathoustra. Donc, il estime que les plus anciens textes de l'Avesta ont dû être rédigés dans la première partie du 7e siècle, aux alentours de l'an 600. L'école d'Erlangen modifiera cette datation, n'est-ce pas ? Selon l'école d'Erlangen, les plus anciens textes de l'Avesta sont bien antérieurs à cela. À cette époque, il doit donc supposer que les Yasht, qui sont écrits en avestique récent, sont beaucoup plus récents et sans indice particulier, mais avec simplement une sorte de réflexion, d'ailleurs tout à fait vraisemblable, sur les données du texte, il propose que le Yasht a été composé dans sa plus grande partie, dans la dernière partie du 5e siècle. Donc, mettons 425 avant notre ère, cela signifie à l'époque des Achéménides, ce ne sont pas les premiers rois achéménides, ce n'est pas Darius, ce n'est pas Xerxès, ce sont nécessairement leurs successeurs, sous le règne des Artaxerxès. Il accepte aussi la perspective de Christensen, qui est celle de penser que les textes, les Yasht, les hymnes aux divinités, autres qu'Ahura Mazda, comportent deux traditions. La tradition religieuse proprement zoroastrienne et une tradition religieuse plus ancienne, celle d'un vieux polythéisme où ces divinités auraient eu un poids beaucoup plus considérable qu'elles n'ont dans le mazdéisme. Donc, dans la perspective de Christensen, reçu par Malandra, l'hymne au Fravashi est un hymne à de vieilles divinités plus zoroastriennes. Ce n'est pas dans sa rédaction du 5e siècle un texte zoroastrien, mais quand ces divinités seront intégrées au zoroastrisme triomphant, le texte sera revu, il recevra des interpolations, c'est la deuxième tradition, la tradition véritablement zoroastrienne, celle-là, dans le courant du 3e siècle. Donc, après Alexandre le Grand, voilà la perspective chronologique. Vous savez aussi, nous en avons parlé souvent, parce que c'est aussi quelque chose, ce n'est plus dû à Karl Hoffmann, c'est dû à mon collègue Cherveux, d'abord, n'est-ce pas, c'est que cette perspective a été entièrement rejetée pour les Yasht, et aujourd'hui, nous travaillons dans une toute autre perspective, qui est celle de Yasht plus ancien, en fonction de la datation haute, mais aussi dans une perspective qui en fait des textes homogènes. Il ne faut pas chercher à retirer des Yasht de quelconques interpolations tardives. Donc, un texte pré-achéménite pour nous, un texte pré-achéménite et un texte homogène, tout au moins du point de vue doctrinal, car je suis beaucoup moins optimiste que Cherveux sur l'homogénéité foncière du texte. Des textes ont été manipulés, très probablement, et de diverses manières, mais ces manipulations ne traduisent pas des réajustements doctrinaux. Donc, voici, je me résume. Malandra étudie le Yasht 13 en fonction d'un modèle historique qui suppose que la religion de l'Avesta a eu un fondateur actif vers l'an 600 en Khorasmie, que le texte du Yasht 13 en particulier est un texte non zoroastrien qui a été rédigé pour sa plus grande partie entre 400 et 450 et qui a reçu des interpolations zoroastriennes vers 250. Voilà le tableau dressé par Malandra. L'édition de Malandra fait foi. Hein, elle est confidentielle. Il faut quelque chance pour la posséder. Je l'ai, merci. Mais c'est le texte de référence de toute étude sur les Fravashi aujourd'hui. Le reste relève du travail personnel et de quelques ajustements qui seront faits progressivement. Alors, où est la difficulté ? Je la définis, et je vous le rappelle de manière générale, non pas la difficulté que le texte me crée à moi-même, mais la difficulté qu'il crée d'une manière générale pour ceux qui l'étudient. Du point de vue de la doctrine religieuse, comment faut-il définir les Fravashi ? Nous sommes confrontés pour définir les Fravashi à trois choix entre trois possibilités. Nous devons faire donc, si je calcule bien, 9 choix. Bien, d'abord, à quoi ressemble-t-elle ? Quelles figures divines peuvent-elles représenter ? C'est une horde divine. C'est la première apparence. une armée divine, une armée de divinités. C'est la seule dans la religion zoroastrienne. La religion zoroastrienne n'exclut pas des regroupements ponctuels de divinités. Il y en a même fréquemment. Les divinités s'associent ponctuellement pour telle action, pour telle nécessité. Ceux d'entre vous qui ont étudié le Yesh de Dizamitra le savent. Mitra a une escorte qui intervient de concert quand il le faut. Mais ce sont des dieux qui, par ailleurs, peuvent se dissocier et intervenir personnellement, individuellement, dans un tout autre contexte. Donc, c'est une sorte de coalition ponctuelle de divinités. Toujours les mêmes, bien sûr, ça forme un tout, c'est une escorte particulière. Cela, le mazdéisme le connaît. Mais des divinités, dans une certaine mesure anonymes, fondues en une vaste troupe, non. Alors, c'est une évidence. Cela compose le tissu du Yash de 13, n'est-ce pas? Je vous signale, je vous dis ce que mentionnent fréquemment, n'est-ce pas, le Yash de 13, ce qu'il y a de plus frappant. Le Yash de 13, strophe 45, nous dit qu'elles sont casquées, elles sont cuirassées, elles portent l'épée, tout cela étant de bronze. Aya. Une image très claire. Le Yash de 37. Pourouspadad, dit-il, elles forment une armée nombreuse. Elles ont l'arme à la ceinture. Elles brandissent un étendard. C'est une armée en marche. L'image est univoque, très claire. Alors, que peut-on reprocher maintenant à cette interprétation? Eh bien, l'interprétation, les nuances que je voudrais faire à ce sujet sont les suivantes. Nous devons toujours envisager avec une méfiance de principe. Les interprétations guerrières qui ont été données des textes mazdéens. Il y a peut-être une donnée psychologique, peut-être une certaine fascination des gens de cabinet pour les hommes d'action, peut-être qui les amène à surévaluer la fonction guerrière, c'est possible. Mais il y a aussi ce que j'appellerais très clairement le syndrome homérique. C'est le syndrome homérique, n'est-ce pas? L'idée que l'épopée grecque, n'est-ce pas, l'épopée homérique, est une sorte de modèle littéraire qui vaut pour tous les temps, toutes les époques, le type littérature épique est une catégorie valide que l'on peut étudier comme telle. Il faut se méfier aussi de cela. N'oublions pas que nos textes ne sont pas des épopées. Ils racontent des mythes qui sont parfois violents et que les mythes, c'est un domaine de la religion. Nous devons les appréhender comme des textes religieux, doctrinaux, bien sûr, mais aussi rituels. Et l'évocation qui est faite, c'est l'apparence que l'on tient donnée des divinités. Cette ambiance guerrière, c'est le tissu interstitiel évident du Yesh de 13. Mais il faudra que nous abordions cela et que nous voyons comment ces colorations guerrières s'introduisent dans le texte en fonction de la structure du texte. Nous le verrons aussi. Provisoirement, en tout cas, et en tant que, je dirais, comme principe de base du travail, je préférerais m'exprimer avec une nuance que j'emprunterai à Cherveux, dans un article plus récent, lorsqu'il ne parle pas de fonction guerrière à propos de la horde des Fravachis, il préfère parler de coloration martiale. Appréciez la nuance, elle est correcte. N'est-ce pas ? Il y a une coloration martiale évidente qui fait le tissu du Yash de 13. Ça ne signifie pas qu'il y ait une véritable fonction guerrière des Fravachis. Alors, est-ce que les Fravachis sont avant tout cela ? Une horde divine. Il y a un deuxième aspect qui pourrait être primordial. Ce sont les âmes des ancêtres. Les âmes des ancêtres. Oui, les âmes des ancêtres, mais c'est une définition. Ici, le problème est que la définition est partielle. Nous avons quelques passages qui nous disent de manière totalement explicite, qui nous donnent la définition explicite, les Fravachis, ce sont les âmes des morts. Donc, elles sont bien, pour une part, les âmes des ancêtres. On peut le faire. Le sont. Mais elles ne sont pas que cela, car il y a un autre texte très explicite qui nous dit ceci. Quelles sont, il est question de leurs puissances respectives. Eh bien, le texte classe de manière distinctive la puissance des âmes en fonction de leur situation par rapport à la naissance. Il y a des fravachis d'hommes qui sont nés, qui sont morts, qui sont nés, d'hommes qui sont vivants, qui sont en vie, et des fravachis d'hommes qui naîtront. Qui ne sont pas encore nés. Enfin, ça, c'est sans aucun doute, ceci nous introduit très réellement au cœur du problème des Fravachis, dans leur spécificité à l'intérieur du mazdéisme. Et c'est cette spécificité que j'ai voulu traduire dans le titre même de mon cours. C'est une âme, oui, mais c'est une âme qui a la particularité de pouvoir être envisagée de manière préexistante, puisque cette âme existe, les âmes de tous les vivants existent. Quand qu'ait lieu, quand leur naissance, c'est ce que dit le texte, où qu'ils soient nés et quand qu'ils soient nés. Bon, par rapport, elle est émancipée par rapport à la naissance des vivants. Alors, oui, on a pu relever aussi, n'est-ce pas, on a pu relever aussi que, c'est, curieusement, cet aspect âme des morts, qui est le moins évoqué par le texte. Et même, on pourrait même lui dénier tout fondement littéraire avec le texte du Yasht 13. On peut lui dénier tout fondement littéraire. Le problème, c'est que dans le zoroastrisme d'aujourd'hui, et même des quelques siècles où nous avons pu l'observer directement en Inde ou en Iran, effectivement, le Yasht 13 au Fravachi sert à de récitatif rituel lors de la fête des âmes des morts. Non, c'est un rituel particulier. Et ce rituel saisonnier porte un nom qui est évoqué dans le Yasht 13, effectivement. C'est le Hapmaspasmaidaya. Un nom très compliqué qui paraît très difficile à appréhender et qui l'est effectivement. C'est pour ça que je le mets, parce que nous ne savons pas ce que ça veut dire. Nous ne savons pas du tout ce que ça veut dire parce qu'on peut prendre le mot, on peut prendre le mot par les deux bouts, mais on ne sait pas les mettre ensemble. Et nous prenons le tronçon final, on a quelque chose qui ressemble plus ou moins à un nom du sacrifice, sanskrit Meda, mais si on le prend, mettant que ceci est un préverbe, si on le prend par le tronçon initial, nous avons quelque chose qui nous fait penser au nom avestique de l'armée. Mais comment associer ça? Ça n'est pas possible en grammaire, ce n'est pas possible en syntaxe, et ça n'est pas beaucoup plus facile du point de vue sémantique. Alors, lorsque l'on nous dit dans le Yasht 13 que ces Fravachis, elles viennent vers les clans, c'est l'entité sociale qui est mentionnée lors de la fête du Hapmaspasmaidaya, que veut-on dire? Est-ce que c'est une évocation du retour vers leur clan des âmes des morts, des âmes des ancêtres, comme certainement un Parsi d'aujourd'hui le dirait s'il n'a pas la connaissance parfaite des problèmes philologiques que ce passage nous pose? C'est possible. Certains d'entre eux, mais les interprètes, les philologues qui interprètent l'Avesta ne sont pas du tout sûrs que c'est cela que cela signifie. On a même voulu y voir une fête de la bière. Hoffmann pensait, mais c'est tout aussi spéculatif, qu'il s'agit au contraire du rituel qui se produit lorsque l'on lève les contingents, que les clans seraient les entités sociales responsables de la fourniture d'un certain contingent de guerriers aux entités sociales supérieures, la tribu ou la nation, n'est-ce pas, et que ces contingents sont renouvelés toutes les années et que ce renouvellement se produit lors de la fête qui porte ce nom. Mais c'est une spéculation aussi. Mais vous voyez, on peut très bien interpréter comme cela. Et alors, il n'y a plus de lien évident textuel dans le Yasht 13 entre les Fravachis et un éventuel culte des ancêtres. Bien, alors, troisième chose que les Fravachis sont certainement. Les Fravachis, le mot Fravachi, indépendamment de sa personnification comme divinité, de sa mise en bande, de sa situation dans le temps par rapport aux hommes vivants, eh bien, c'est une faculté abstraite de l'individu. C'est une composante de l'individu. Alors, je dirais, en gros, c'est une âme. C'est une âme. Or, le Yasna 26 nous en fait la théorie. Nous en fait la théorie. C'est un texte qui est répété plusieurs fois dans l'Avesta. C'est une phrase qui figure dans l'Yasna 26 et qui est répétée dans le Yasht 13 au Fravachi, mais c'est une phrase extrêmement intéressante parce qu'elle opère un grand rassemblement de toutes les puissances psychiques qui animent l'individu. Il en manque une, c'est dommage, mais comme elle est bien mentionnée par ailleurs et que nous la comprenons, alors il distingue dans l'ahu, c'est-à-dire l'état d'existence d'un individu, dans l'état d'existence peut être matériel, ou il peut être mental, bien sûr, Il peut appartenir au corps, il peut appartenir à la pensée, mais ici, c'est uniquement de la pensée qu'il s'agit. Il distingue, c'est aussi des références que certains de mes auditeurs connaissent bien, il distingue une âme qu'il appelle Bauda, c'est un mot très clair, hein, c'est parenté au nom du Bouddha, c'est la perception sensorielle, c'est la capacité de perception sensorielle. Et alors, je vais donner immédiatement le nom de la force psychique manquante, c'est l'ushtana. Ça, c'est un mot obscur, ne le comprenons pas. C'est la faculté de mouvement autonome. C'est l'animation du corps. Hein, vous voyez, la perception, ça caractérise un vivant, bien entendu. Il y a une force qui paraît échapper, pas à toutes les données de la corporalité, de la physique. Bien, c'est que l'on perçoit et l'on se meut en dehors des lois de la physique. Mais ces deux facultés-là, elles disparaissent à la mort dans le système mazdéen. Ce sont des âmes mortelles. Ce sont des âmes mortelles. Alors, il reste les trois âmes immortelles. Il y en a trois. Il y a l'urvan, mot obscur lui aussi. Cherveux veut bien me faire l'honneur de répondre, de reproduire une des hypothèses que j'ai faites, à savoir que cela signifie celle qui crépite, celle qui fait du bruit, n'est-ce pas? Parce que l'âme va parler dans la nuit lorsqu'elle est morte pour être repérée par les divinités, mais elle doit parler de manière extrêmement inaudible parce que, justement, elle a perdu la faculté de percevoir et de mouvoir ses ressorts physiques. Dès lors, c'est un bruit presque inaudible, un crépitement que l'on entend dans la nuit, hein, comme la rumeur, le tumulte des eaux ou le crépitement du feu, mais ce serait peut-être ça. Je me méfie, hein, je me méfie beaucoup moi-même de cela. D'ailleurs, je vous l'expliquerai quand le moment sera venu. Je me méfie de toutes les hypothèses qui cherchent un nom qui soit en rapport avec la fonction évidente des choses. Ce n'est pas parce qu'une entité, une force, une divinité fait telle action qu'elle se définit dans son nom par cette action. Il faut se méfier de cette mise en rapport immédiate entre le nom et la fonction. Je me méfierai. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre explication, vous savez. Il n'y a pas de bonne explication du mot urvan. Alors, la deuxième âme, la Daina, bien sûr, elle aussi immortelle, nous savons que d'une façon ou d'une autre, c'est une capacité de vision, que son nom signifie cela ou autre chose, mais nous pouvons identifier le mot de façon, dans le contexte indo-iranien, de façon assez sérieuse. Enfin, la troisième, c'est la nôtre, c'est la Fravashi. Alors justement, cette année 94-95, j'avais consacré mon cours au rapport entre ces deux âmes-ci, puisque nous possédons ce texte, un fragment qui ne fait pas partie du grand corpus avestique, un fragment qui nous raconte comment, à la mort de l'individu, les deux âmes se réunissent. L'âme Ruvan, qui est masculine, qui se trouve à l'intérieur du corps, qui est expulsée par la mort, et qui va évoquer, et qui va rencontrer durant les trois premières nuits qui suivent la mort, après trois nuits, elle va rencontrer la Daina, qui elle est féminine, qui n'est pas interne au corps. Chaque individu a une Daina, mais la Daina, elle n'est pas interne. C'est des mécanismes un peu compliqués, n'est-ce pas? On peut juger que la Daina est pérégrinante, on peut aussi peut-être l'attirer à soi, la faire venir à soi au moment du sacrifice. Les prêtres, comme nous avons vu l'an dernier, les prêtres investis de la charge du sacrifice se constituent une Daina. Il y a des techniques d'invocation et de prière pour cela, parce qu'ils ont besoin de cette Daina qui fera le chemin vers les divinités. Mais la rencontre aussi, j'avais consacré mon cours à cela, cette rencontre, les deux âmes vont se fondre, et elles se fondent d'une manière très particulière par un mariage. C'est un mariage entre l'âme masculine et l'âme féminine. Il m'a fait dire, écrit de façon, pas pour être très clair et même brutale, c'est que la mort dans ce système est un mariage avec soi-même. C'est une réunification de l'individu par la mort. Alors, tout cela marche bien. Nous savons quelles sont ces deux âmes. On voit comment elles se réunissent, comment elles se refondent en une seule entité en gagnant le paradis. Oui, mais la Fravashi, non. Elle est extérieure à ce système. Que devient-elle? Où est-elle? Elle est extérieure. Est-elle extérieure aux hommes? Est-elle intérieure aux hommes? On a posé la question de savoir où elle était. Et nous avons des indications en sens divers. Nous nous posons la question, d'ailleurs. Hein? Mais pour ce qui nous retient maintenant, ce n'est pas le problème. Donc, une force mentale, trois choses, l'âme des ancêtres, faculté, une âme faculté de chaque individu. Alors, il y a bien sûr, dans le regroupement de ces trois apparences, quelque chose de logique. On voit bien que le nom de l'âme peut servir à désigner l'âme des ancêtres, les ancêtres sous forme d'âme, leur âme subsistante, et que cet ensemble d'âmes forme une horde. Oui, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce cette âme-là, la Fravashi, qui désigne la troupe des ancêtres? Nous avons vu aussi se dessiner une idée qui est spécifique, c'est celle de l'âme préexistante. Ce qui amènera Chervieux d'ailleurs à traduire le mot Fravashi par pré-soul en anglais, pré-soul. La traduction de Chervieux. Je crois qu'on ne pourra pas dire en français pré-âme, ça ne peut pas marcher. Alors, bien sûr, dans cette logique-ci, on a pu chercher de certaines explications syncrétiques, mais nous y viendrons. Alors, voilà le premier choix. Le choix entre l'apparence et peut-être la fonction de ces divinités. Quelle est la fonction originale qui va doucement produire ou annexer les deux autres? Maintenant, leur nom. J'y viens au problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Que signifie Fravashi? Vous lirez souvent, si vous consultez de la littérature à ce sujet, vous lirez de manière fréquente une phrase qui est en gros ceci. Hein, sous toutes les plumes, y compris la mienne peut-être à une certaine époque. L'étymologie du mot Fravashi n'est pas possible en raison du grand nombre des racines var qui pourraient l'expliquer. Étymologie, grand nombre de racines. C'est faux, entièrement faux. Je m'emporte toujours contre ceci, et certains d'entre vous se souviendront sans doute que j'ai discuté de cela avec notre invité Albert de Jong, avec une certaine vigueur il y a quelques années. Nous tenons pas rigueur parce qu'il me reprochait de trop appréhender les problèmes par le côté étymologique. Ce n'est pas de l'étymologie. Il n'y a aucune distorsion phonétique causée par le temps dans le problème que je pose. Aucune, n'est-ce pas? Il est question d'identifier le mot, c'est-à-dire de voir quelle est sa racine de base et de voir quel est son suffixe. Nous savons déjà, le fra, c'est très clair, c'est un préverbe. Nous n'avons pas besoin d'en tenir compte. Nous le savons. Quelle est la racine? Ce n'est pas un problème de linguistique diachronique, dirons-nous. C'est un problème purement synchronique. Comment le mot est-il tout simplement fait? Que veut-il dire? Car il ne faut pas s'y tromper. Celui qui a composé le yashta des Fravashi, comme tous ceux qui dans la suite l'ont entendu réciter jusqu'à ce que le mot ne soit défiguré plus tard, savait très bien identifier ce mot, il savait très bien ce qu'il fallait dire. Bien, alors, ça c'est la première impossibilité. Deuxième erreur dans cette phrase, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a trop de racines var. Il n'y en a que deux. C'est une caractéristique qui a pu être léguée à une certaine époque par le dictionnaire avestique, vieil iranien en général, de Christian Bartholomé. Et Bartholomé avait cette tendance. Un essai philologique, comme un autre, c'était une position légitime à son époque, mais une des tendances de Bartholomé, qui était un grammairien remarquable, ce n'est pas une critique de fond que je lui fais, je fais la critique d'une certaine époque et d'un certain type de solution, il a eu tendance à multiplier les mots, tant du point de vue des racines que du point de vue des thèmes verbaux. Il y a le travail philologique, le travail de réajustement du Bartholomé qui a eu lieu par la suite, par certains philologues et surtout par moi-même pour le verbe, n'est-ce pas, consistait très souvent à amincir le Bartholomé, le matériel lexical de Bartholomé. Il fallait réduire le nombre de racines, réduire le nombre de thèmes verbaux. J'ai sans doute aussi exagéré, Xavier Tremblay me le dirait certainement, peut-être que maintenant le mouvement du balancier va repartir dans l'autre sens. Après la cure d'amaigrissement, ben, on va tenter de reprendre un peu de poids, c'est possible. Hein. On a dénoncé, c'était très joli, n'est-ce pas, lui c'est mon aîné, ce n'est pas l'un de mes cadets, le philologue anglais Bailey, qui est mort quasi centenaire il y a 10 ans, n'est-ce pas, trouvé que c'était une exagération d'amincir le Bartholomé de cette manière, dit-il. Vous faites la chasse aux apax, disait-il, n'est-ce pas. Or, les apax, les mots qui ne sont mentionnés qu'une fois, ce sont les plus intéressants dans une langue. Et vous êtes en train de les chasser tous de la vestique. Hein. Bon, mais pour ce qui nous retient ici, non, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités pour la racine var. Oui, mais il faut ajouter une troisième racine, possible. Alors, je vous dis tout de suite, et j'y viendrai très bientôt, je ferai le raisonnement avec vous, pas aujourd'hui, dans les leçons qui viennent, je crois que le problème n'existe plus et que nous pouvons identifier en toute sûreté le mot. Mais comme ce n'est pas un avis unanime, et que dans des conversations tout à fait contemporaines, n'est-ce pas, tout à fait d'aujourd'hui, j'ai entendu mentionner ces possibilités, je vous les donne. Donc le préverbe froid, c'est hors de cause. Alors, il y a deux racines var, effectivement. Un var, une racine qui signifie en gros envelopper, envelopper. Envelopper, recouvrir, et vous sentez que sous cette notion extrêmement concrète et extrêmement pratique, n'est-ce pas, du verbe, se cache une possibilité d'extension sémantique très grande, bon, entre autres du côté de protéger, ce qui est attesté. Protéger, hein, parce que le nom de la cuirasse, je t'en ai parlé à propos des fravachis tantôt, par exemple, cette protection militaire par excellence, ben, c'est un dérivé de cette racine-là. Racine var. Donc, avec un suffixe ti, qui est un suffixe de nom d'agent. Oui, nous ne faisons pas d'étymologie, nous prenons les mots tels qu'ils sont dans le dictionnaire avestique. Il y a une deuxième racine var. Elle signifie choisir. Elle signifie choisir, faire un choix. Alors là, de même, suffixe ti, préverbe pra. Le préverbe peut ne pas changer grand-chose. Le préverbe fra, pour dire les choses de manière très analogique, il a une fonction de superlatif. Il sert à construire des superlatifs verbaux. Ça signifie que l'on fait l'action avec une solennité ou une excellence particulière. Bon. Parfois, c'est ce qui se dirige vers l'avant, mais ici, avec des verbes de ce type-ci, on ne peut pas estimer cela. Troisième possibilité, c'est une racine vart. Une racine vart, qui signifie tourner, rouler. Alors là, vous voyez le fra doit avoir le sens d'un mouvement vers l'avant. Et il y a un suffixe « i » qui peut être un suffixe de nom d'agent. Alors, je mentionne ces trois possibilités. Vous verrez, c'est choisir que nous choisirons. Mais, je croyais que tout le monde était à présent convaincu de cette solution. Je me souviens, lors de la soutenance de thèse de Xavier Tremblay, il y a quelques années, mon collègue Pierre Lecoq, de l'École pratique des hautes études, m'a affirmé toujours sa foi en la racine enveloppée, var. Récemment, dans un compte-rendu de mes études avestiques, IMASDN 1, c'est donc dans le BSL de l'an dernier, de 2007, Jean Oudry a, lui, tenté de réveiller la racine vart pour expliquer le nom des fravachis. Alors voilà, nous avons le choix entre trois racines pour expliquer le mot. Vous voyez que ce n'est pas très éclairant non plus sur le sens du mot. Hein, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, j'y reviens. Comment faut-il comprendre le mot ? Ne cherchons pas. Très souvent, on va donner... sa préférence à la racine qui paraît le mieux correspondre à la fonction des fravachis. Est-ce qu'elle protège ? Bah, si vous voulez en faire une horte protectrice, oui. Ce sera la solution que l'on retiendra. La solution plus théologique, c'est la racine choisir, comme nous le verrons, n'est-ce pas ? Alors, dans leur racine vart, nous avons d'autres possibilités, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... C'est celle de l'idée de rouler qui pourrait donner une idée de mouvement perpétuel, ce qui est toujours en mouvement, malgré la mort, donc l'éternité de l'âme. Bon, bah, mais comme je vous disais, je me méfie de cette concordance entre l'appellation et la fonction. Nous en avons un superbe exemple dans la philologie iranienne, c'est le nom de cette fameuse force lumineuse qui s'appelle le Qarna, n'est-ce pas, et dont on a discuté sans fin, je voudrais dire de l'étymologie, mais ici aussi c'est de l'identification, hein, parce que simplement cette force est quelque chose de lumineux et qu'il fallait nécessairement trouver pour expliquer ce nom une racine verbale qui se rapporte à la lumière. D'où cette tendance permanente de ramener la syllabe de base qui est quar au nom du soleil, ce qui est rigoureusement impossible, à la fois phonétiquement et du point de vue de la formation du mot. N'est-ce pas ? Mais ça a encombré toutes les discussions sur ce mot pendant des années, jusqu'à l'article décisif il y a quelques années de Lubotsky. Bon, c'était un exemple. Il faut donc rester en retrait par rapport à la logique du nom. Nous n'utiliserons pas la logique du nom, s'il vous plaît. Alors, nous avons un troisième choix, hein, entre trois autres possibilités. Vous savez que nous ne la ferons pas dans les termes que je vais vous exposer. Malandra l'a fait, tout le monde l'a fait jusqu'à ces dernières années. Qui sont ces divinités? D'où viennent-elles? Sont-elles pré-zoroastriennes? C'est-à-dire, si nous croyons qu'il existe un fondateur de la religion de l'Avesta, nous devons nous demander, sont-ce des divinités qui participaient de la religion iranienne avant l'intervention du fondateur et qui ont été plus tard réhabilitées dans les textes les plus récents de l'Avesta? Il y a une difficulté. Si elles sont pré-zoroastriennes, elles ne sont pas indo-iraniennes. Il n'y a rien d'équivalent, ni pour le nom, ni peut-être pour la fonction parmi les divinités du Veda. Ce ne sont pas des divinités indo-iraniennes, c'est une spécificité iranienne. Alors, serait-elle une invention du fondateur? Serait-ce des divinités zoroastriennes, plus proprement parlées? Difficulté ici aussi. Le mot Fravashi n'apparaît pas dans les Gathas, qui sont réputés le texte composé de la main même du fondateur. Il n'y a pas de mot Fravashi dans les Gathas. Faut compter avec cela aussi. Alors, autre particularité, serait-elle post-zoroastrienne? C'est-à-dire, serait-ce une création des théologiens successeurs de Zarathoustra? À partir de quoi, n'est-ce pas? À partir de quoi? Alors, je viens de vous exposer les trois choix auxquels nous confrontait l'étude des Fravashi, qui ont été abordés. Ah oui, petite chose quand même que je vais vous dire. Vous vous doutez bien, vous me connaissez, pour certains d'entre vous du moins, depuis suffisamment de temps pour savoir que je ne vais pas faire le troisième choix, puisque pour moi, le zoroastrisme n'a pas de fondateur. Pour moi, la distinction entre pré-zoroastrien, zoroastrien, post-zoroastrien ne se pose pas. Cela ne signifie pas que je ne poserai pas une question analogue et apparenté. Je dois tout de même me poser la question suivante. Quelle place les Fravashi occupent-elles dans le monde conceptuel de la religion mazdéenne? En quoi consiste leur particularité fondamentale, hein? Quel chaînon représentent-elles dans la structure des croyances et des doctrines du mazdéisme? C'est se poser à peu près la même question que celle de savoir si elles sont pré-zoroastriennes, zoroastriennes ou post-zoroastriennes. Parce que les grandes catégories fonctionnelles divines que nous allons confronter sont les mêmes, n'est-ce pas? Bon, je poserai donc la question plutôt comme ça. Alors, ce que je voudrais encore vous faire remarquer, c'est que si nous avons trois fois le choix entre trois possibilités, ces choix s'articulent entre eux. On voit bien que si nous optons pour âme des ancêtres comme fonction initiale, comme fonction de départ, on s'orientera vers une identification du nom par la racine vart, roulée, qui permet d'y voir une allusion à leur éternité. On verra aussi, on considérera aussi qu'elles sont pré-zoroastriennes, puisque, semble-t-il, le culte des âmes des morts représente une constante universelle dans les religions de l'humanité, et en tout cas quelque chose qui peut remonter très haut dans l'histoire de toutes les religions. Et c'est une théorie qui a été d'ailleurs défendue très tôt, n'est-ce pas, dès, je pense, la première étude systématique sur les Fravashis qui était due à un indianiste considérable, un des grands éditeurs des textes des Brahmanas, Wilhelm Carland, professeur à Leiden, qui a publié en 1888 un livre consacré au culte des morts dans le monde indo-iranien, Totenverehrung. Le livre de Carland, je tiens à le faire remarquer, est très mince. Et c'est surtout un relevé de matériel philologique remarquable qualité. C'est pas, ce n'est pas un livre qui est consacré fondamentalement à l'interprétation de ce que peuvent être les Fravashis ou de ce que peut être, de manière générale, un culte des morts. C'est un livre purement philologique. Mais l'idée de base est présente. Hein, ce sont les âmes des morts. Alors, le choix horde divine, certainement de pair avec le choix de la racine un var, qui fait référence à la notion de protection, et avec le choix de divinité post-zoroastrienne. Un nom, ici, n'est-ce pas, à mettre en regard de cette articulation, c'est celui de Dumézil, dans un article du journal asiatique de 1953, qui considère que c'est l'aspect horde divine qui est l'aspect initial des Fravashis, et que cette horde divine a été modelée selon les critères du zoroastrisme, par les théologiens successeurs de Zarathoustra. Puisque le mot n'est pas dans les Gathas, ce n'est pas l'œuvre de Zarathoustra, mais ses successeurs, imprégnés des critères du fondateur, ont en quelque sorte transformé une horde divine ancienne selon des colorations parfaitement post-zoroastriennes. Ça, c'est bon. Dumézil, 1953. On le lui reprochera, hein. Ses partisans même feront remarquer Wiedengreen dans la religion, Les religions de l'Iran ancien, paru en français en 1967, lui a reproché cela, disant qu'il ne voyait pas très bien à quoi rimer ce concept de post-zoroastrien pour les Fravashis. Mais nous n'entrons pas dans ces discussions, pour l'instant du moins. Alors, le choix de la faculté, l'âme, hein, une faculté matérielle de l'homme, tout s'articule avec la racine de var, choisir, et avec l'idée qu'il s'agit d'un concept véritablement zoroastrien. Oui, vous me direz, il y a une articulation, mais vous me direz qu'elle n'est pas très claire tout de même. Hein. Quand je la mentionne de telle manière, quand je la décris de telle manière, vous ne voyez pas où sont les aspérités logiques, les petits crochets logiques qui me permettraient de... il faudrait y consacrer une leçon. Mais c'est une hypothèse qui a été développée en 1927 par Hermann Lommel dans sa traduction des Yacht. Il a traduit des Yacht, le livre complet des Yacht en allemand en 1927, et il l'a développé en préface à sa traduction du Yacht 13, n'est-ce pas? Alors, comme pour l'instant, sans doute, les petits crochets logiques ne vous sont pas apparents, je vous consolerai avant que j'en fasse l'exposé en vous disant que c'est ce qui a fait que l'hypothèse de Lemel n'a pas eu un succès immédiat. N'est-ce pas Malandra qui la rejette, cette explication dans son livre qualifie l'hypothèse d'ingénieuse. Mais quand on qualifie une hypothèse d'ingénieuse, cela signifie qu'elle est un peu trop poussée. Hein. Elle paraît avoir jeté le bouchon véritablement très loin dans la spéculation. Pourtant, nous verrons que ce n'est pas une hypothèse dérisoire. Mais là, nous allons... mais vous voyez aussi tout de suite qu'immédiatement elle heurte, n'est-ce pas? Parce que si on fait la situation par rapport au zoroastrisme, typiquement zoroastrien, disait Lommel, ça heurte pour un mot qui n'est pas attesté dans les Gathas elles-mêmes. Hein, ça paraît une grave discrépance logique. Mais nous y reviendrons. Ça, nous maintiendrons cela pour la matière elle-même du cours des prochaines heures. Je voudrais vous faire remarquer que, bien sûr, si nous avons des tentatives qui cherchent à distinguer quel est l'aspect initial, quel est l'aspect fondamental des Fravashis, nous avons eu aussi des tentatives syncrétistes. Hein. de montrer que, bon, elles sont tout ça à la fois, et qu'il est logique qu'elles soient tout ça à la fois. Il y a, bon, tout d'abord, une, celle qui est traditionnelle, la doctrine traditionnelle avant le réexamen de Malandra. La doctrine, vous voyez bien que l'on peut travailler par analogie. Nous avons chacun notre âme, notre fravachi, et notre fravachi est susceptible de nous protéger. À quoi pensez-vous ? Oh ben, l'ange gardien, bien sûr. L'analogie avec la notion chrétienne d'ange gardien a fonctionné à plein. Hein. Ce qui explique la traduction que Bartholomé, dans son dictionnaire, donne du mot « Schutzgeist », esprit protecteur. Hein. C'est évidemment l'idée de l'ange gardien qui se situe derrière cette représentation. Bartholomé, soi-disant, ne faisait pas d'identification du mot. Lui, il disait « moi inconnu »,« origine inconnue hein. ». Mais cela soit dit pour l'exhaustivité. Mais j'écarterai tout de suite cette vieille possibilité, Malandra l'a fait, parce qu'elle la contraint de quelque chose de rédhibitoire. C'est qu'aucun individu n'a de lien précis avec sa fravachi. Ça, c'est tout le contraire des anges gardiens. Un individu ne peut pas appeler à l'aide sa fravachi. Ça n'existe pas. Les fravachi interviennent nécessairement en horde, justement. Mais la horde peut être limitée. Il y a le corps, l'armée des fravachis de chaque cercle d'appartenance sociale, depuis le plus simple jusqu'au plus grand. C'est l'armée des fravachis de la lignée familiale. Avec le temps, il peut y en avoir beaucoup. L'armée des fravachis du clan. L'armée des fravachis de la tribu. L'armée des fravachis de la nation. Oui, c'est toujours un regroupement selon le critère de l'appartenance sociale qui fonctionne. Il n'y a pas de lien individuel entre la fravachi et l'être humain. C'est pas... Donc la représentation ange gardien, Schutzgeist individuel, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas. Alors, la solution Malandra, ici, les scrupules de Malandra jouent à plein, et il fait quelque chose d'extrêmement humble comme solution. Il dit, bien, l'hypothèse de Malandra, c'est tout simplement celle-ci, n'est-ce pas ? Il nous... Bon, il faut voir, dit-il, que les fravachis représentent de toute façon quelque chose qui fonctionne en groupe. C'est le syncrétisme entre les ancêtres, ils forment un groupe, la horde divine, qui est par définition un groupe, et puis... Il reste la notion d'esprit gardien, guardian spirit, qui peuvent aussi fonctionner en groupe. Eh bien, la fusion de ces trois groupes, c'est les fravachis. Voilà la solution Malandra. Ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement. Il y a aussi une tentative de Newley, 1986, pour Newley, dans une interprétation qui surévalue très fortement l'aspect guerrier. Les ancêtres sont une troupe de guerriers parce que cela traduit pour lui l'idéologie d'une société ancienne, foncièrement guerrière et aristocratique. C'est un des petits caprices de Newley, n'est-ce pas ? Il aime bien ça. Il croit savoir que la société iranienne de l'an 1000 avant notre ère représentait une aristocratie guerrière. Moi, je ne sais pas. Pas ce que c'est. Comment pouvons-nous savoir si nous pouvons faire fonctionner la société iranienne tout de même primitive ? L'an 1000, c'est la préhistoire pour l'Iran, l'an 1000 avant notre ère. Ben, pourquoi devons-nous lui appliquer, n'est-ce pas, la description du mode de production féodal ? Quelque chose ne fonctionne pas dans le schéma. Ben, nous ne savons pas du tout où se situe la société iranienne de l'an 1000 avant notre ère entre les sociétés traditionnelles et les sociétés de classe. Nous ne savons pas. Le texte ne nous permet pas de l'établir. Donc parler d'aristocratie guerrière est un non-sens. Avant de terminer, je termine immédiatement, je vois qu'il est l'heure, signalerai aussi l'embarras dont ne s'est jamais départi Mary Boyce vis-à-vis des fravachis. Elle est très ennuyée, mais vraiment très ennuyée par les fravachis. Si vous vous reportez à son grand livre sur l'histoire du zoroastrisme de 1975 ou à un de ses derniers articles de l'an 2000, c'est la même chose. Elle confond tout particulièrement, on le fait souvent, mais tout particulièrement pour ce problème, elle confond l'histoire des doctrines religieuses du mazdéisme avec l'histoire des émotions de Zarathoustra. Et elle dit, oui, mon Dieu, Zarathoustra ne pouvait pas admettre les Fravashi parce que cela compromettait son système monothéiste. D'autre part, on ne peut pas non plus condamner fermement la dévotion que nos contemporains ont pour leur mort, etc. Donc, son rejet des Fravashi était très mitigé, très conciliant, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Voilà la manière dont Mary Boyce a abordé le problème. Eh bien, alors, ben, nous, on va essayer de débrouiller les choses en lisant le texte. Je lirai pour vous le texte. Il faut d'abord voir quelle est la structure du Yasht, car la question est toujours beaucoup plus techniquement plus compliquée. Depuis Cherveux, nous le savons, nos analyses doivent être beaucoup plus techniques dans l'approche de ce qui est, après tout, un texte, hein, un objet littéraire. Hein, comment est-il fait ? Bien. Alors, nous abordons ce problème lors de la prochaine leçon, si vous le voulez bien. Je vous remercie de votre attention. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient venir au séminaire où nous lisons le texte en langue originale, en avestique, cela se passera, si possible, à la salle 1. Sinon, ce sera ici. C'est pas très loin, c'est en face, donc on peut ajuster.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.